Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler d'Apple. On va également parler d'Apple. On va aussi passer un petit moment à parler d'Apple. Et en conclusion, on parlera d'IA et de Twitter. J'étais en train de chercher la conclusion de mon introduction pendant que j'étais en train de la faire. Elle aurait pu être pas mal si la delivery, tu vois, Cédric, avait été un petit peu plus snappy, un petit peu plus, un petit peu plus resserré, tu vois.
Je veux te faire détester par tous les gens qui te reprochent de parler trop avec des mots anglais, etc. C'est ça.
C'est exactement pour ça que je l'ai dit comme ça. Bonjour Cédric Deluca, comment vas-tu? Est-ce que ta vie a changé par rapport à hier?
Ben oui, on est rentré dans un nouvel univers.
Dans un nouveau monde, univers incroyable.
Univers plein d'espace 3D, etc. Quoi.
Plein de Special Computing, comment ils l'appellent? Comment ils l'appellent sur le site d'Apple.com, le Spatial Computing?
Oui, c'est ça, c'est l'informatique spatiale.
Informatique spatiale, oh là là.
Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'envoyer des fusées, hein, mais voilà.
Eh bien, on va en parler d'informatique spatiale. On va également parler de plein d'autres choses. Je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, puisque oui, vous êtes dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 516, nous sommes en juin 2023, et aujourd'hui, on va parler de la conférence WWDC d'Apple, évidemment, mais pas que, hein, j'ai plaisanté dans l'intro. Il y aura plein d'autres sujets qu'on va évoquer également. Mais avant ça, un grand merci à Asmerixm et à Nyandra Lades, les Patriotes qui ont rejoint le Rendez-vous Tech depuis la semaine dernière. Ils bénéficient aujourd'hui de bonus absolument incroyables qui, eux aussi, ont changé leur vie. Tout à fait, encore plus peut-être, on pourrait dire que ça change encore plus la vie que le Vision Pro d'Apple. Et aussi, je voudrais remercier les producteurs Raph et Olivier Maury. Merci à vous deux, merci à vous quatre, les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Et on se lance tout de suite. Non, je ne dois pas le dire, merde. Donc, on refait les patriotes qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com/rdvtech. Ça marche mieux comme ça. Avouons, soyons honnêtes. Oui. Cédric.
Pas lancé.
Cédric Deluca. Aujourd'hui oui. est un jour différent puisque nous devons oui. parler, évidemment, du casque de réalité augmentée virtuelle, pass-through, tout ça, dont tout le monde parle depuis maintenant. Enfin, aujourd'hui, c'est le seul truc que tout le monde. Le seul mot que tout le monde a à la bouche sur Twitter et ailleurs. Évidemment, je parle du MetaQuest 3.
MetaQuest 3, eh oui, évidemment. Incroyable. Il a été dévoilé ce week-end, en gros.
Oui, alors dévoilé, annoncé. Hein. On a senti que Meta, alias Facebook, sentait venir, comme tout le monde, hein, les rumeurs étaient là depuis longtemps, le casque de Apple, et ils ont voulu l'annoncer avant pour que ça ne fasse pas « Oh, bah, ils copient Apple ». Il faut avouer que ce casque MetaQuest 3, qui ne sera disponible que cet automne, est quand même une amélioration substantielle, semble-t-il, hein, de ce qu'il nous présente, du casque MetaQuest 2. Il y a des éléments du MetaQuest Pro, donc le casque est beaucoup plus cher. Ce MetaQuest 3 coûtera 500 et quelques euros, donc un septième du prix du casque d'Apple. Donc, peut-être que ça sera intéressant pour certains. Il a une approche traditionnelle des casques MetaQuest, qui est convaincante, mais qui ne change pas fondamentalement la manière dont on considère ces appareils. Là où, dans une certaine mesure, le casque d'Apple, lui, a une approche qui est un petit peu différente. Il faut noter tout de même que le MetaQuest 3 est d'une finesse particulièrement notable par rapport aux appareils précédents et qu'il peut également, comme le casque d'Apple, faire passer l'image de l'extérieur à l'intérieur du casque. Donc, c'est un casque fermé, mais vous pouvez voir en couleur et avec une certaine fidélité ce qu'il y a autour de vous. Donc, c'est une évolution sensible, notable, du MetaQuest 2, le casque autonome de Meta. Et on en saura plus cet automne quand ils le présenteront de manière beaucoup plus...
De manière beaucoup plus précise.
Voilà. D'ailleurs, oui, je ne sais pas si tu as vu, mais il semblerait que les gens chez Meta, chez Facebook, ne l'utilisent pas du tout pour travailler ce casque, même si c'est leur produit.
Non.
On a des témoignages qui disent, mais ils ne l'utilisent pas, en fait. Bref. Tout ça pour dire que Meta a annoncé son casque, mais évidemment, c'était pour préparer l'annonce de la WWDC, l'annonce principale, le One More Thing. Quelques mots avant sur la WWDC elle-même. Vous le savez, c'est la conférence pour les développeurs d'Apple qui a lieu tous les mois de juin et qui prépare les publications, les mises à disponibilité, des mises à jour généralement, des nouveaux OS et des nouveaux produits. Ils ne parlent généralement pas beaucoup de produits, en tout cas les nouveaux iPhones, nouveaux iPads sont souvent présentés plutôt à la rentrée. Là, c'est vraiment le logiciel et quelques matériels. Un truc qui est notable et dont on parlait beaucoup avant cette WWDC, c'est qu'ils n'ont pas du tout parlé ni d'IA, ni de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'ils ont présenté un casque qui est, sur le principe, un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, mais ils n'ont pas dit une fois les mots « réalité virtuelle », et ils ont utilisé des outils d'IA, mais ils n'ont pas dit une fois le mot « IA » pendant toute la conférence.
Ils parlent du machine learning, ils parlent de tout ça, mais effectivement, ils ne prononcent pas le mot « IA », comme si c'était le ni oui ni non. C'est un ni IA, ni
ni IA, ni VR.
Voilà, c'est ça, c'est ni IA, ni VR, et ils ont réussi. Ils ont bien réussi leur jeu. Parce qu'en fait, ça permet de ne pas pouvoir comparer. Et c'est toujours la même démarche, en fait, chez Apple. C'est se dire, nous, on ne fait pas la même chose que les autres, en fait. Nous, on ne fait pas de VR. Nous, on ne fait pas d'IA, en fait. On fait du machine learning qui sert à quelque chose. On fait de la mixed reality. On fait de l'informatique spatiale. On ne fait pas de la VR, nous. Vous voyez, c'est ça, la différence.
Bah,
ça en fait, c'est une volonté de ne pas pouvoir comparer, en fait. Voilà, c'est tout.
C'est un moyen de dire, bah, nous, on est à part. On n'est pas... Oui.
On joue pas au même jeu.
Voilà, exactement. Voilà. On joue pas dans la même cour. C'est pas la peine de dire bah il y a telle société qui a déjà fait ça, qui a déjà fait ça.
Voilà, c'est ça. C'est comme MetaQuest 3, c'est comme machin. En fait, ils veulent qu'on puisse pas comparer. Et en fait, c'est justifié par le prix aussi. Hein. Mais comme ça, ça permet de faire avaler le fait que en fait, c'est vraiment pas comparable. Et dans les faits, pour le casque, on en parlera après, mais pour le coup, c'est assez peu comparable quand on voit le matériel embarqué, en fait. Mais on en parlera après.
On va parler du casque dans une seconde. Je voudrais quand même mentionner le fait qu'ils n'ont pas présenté de gros produits d'intelligence artificielle, genre qui utilisent l'intelligence artificielle générative. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, puisque l'intelligence artificielle générative est très à la mode, et les ChatGPT, les machins, il y a bien sûr des outils qui, comme depuis longtemps, utilisent des modèles de machine learning et d'IA. Il y a d'ailleurs des utilisations assez intéressantes de cette technologie, mais il n'y a pas une grosse mise à jour. Peut-être que ça arrivera à la rentrée avec les nouveaux matériels, mais il n'y a pas une... Comment dire ? Par exemple, ce qu'on aurait pu imaginer, c'était une refonte de Siri. Là, ce n'est pas le cas. Outre le fait qu'on n'a plus besoin de dire « Hey » mot de code et qu'on peut dire juste le nom de l'assistant intelligent, bah, il ne va pas être plus intelligent qu'avant. Et ça, c'est un gros souci. Enfin, un gros souci. Il y a encore du boulot là-dessus, mais on ne leur reproche pas tellement parce que tout le monde parle du Vision Pro, ce qui, j'imagine, est entré dans leur calcul. Donc, le Vision
Salut au passage,
Pro...
tous ceux qui s'appellent Cyril, non ? Parce que ça va être dur pour la vie.
Pour les gens qui s'appellent Cyril, ça va être compliqué, oui, c'est vrai.
Ouais.
Ils ont utilisé, donc on passera aux autres annonces ensuite, mais on ne va pas vous faire patienter, le Apple Vision Pro, leur ordinateur spatial, on va l'appeler comme ça. Ils ont utilisé le One More Thing à la fin de la conférence, qui est un outil qu'on n'utilise plus avec légèreté aujourd'hui. Si on dit, ouais, c'est ça. Nous voudrions parler, on ne peut même pas le dire en français, d'une chose en plus, mais nous voudrions parler de one more thing, alors là, tout le monde se tait. Le calme revient dans l'assistance.
On a annoncé deux couleurs de housse différentes, un nouveau bracelet d'Apple Watch. Quoi.
C'est ça. Tu ne sors pas le One More Thing juste pour ça. Tu sors le One More Thing aujourd'hui, ça invoque la mémoire de Steve Jobs. Pardon ?
Ouais, voilà, c'est ça. Tu ne peux pas dire, par exemple, One More Thing, il existe en 15 pouces. Ça, non.
Non,
c'est pas possible.
Tu ne fais pas le MacBook Air 15 pouces, même si c'est cool.
Ouais, voilà.
C'est ça. Tu ne le fais pas en One More Thing. C'est, comme je disais, ça invoque le fantôme de Steve Jobs qui se met à planer sur l'audience, enfin, sur la scène. Etc. Et, et effectivement, pour le coup, en tout cas, l'ambition de ce qu'ils ont présenté est tout à fait digne du One More Thing, puisqu'ils ont présenté une nouvelle plateforme informatique, ce casque de réalité mixte, c'est vraiment un casque de réalité mixte, qui a des caractéristiques qui sont pas, qui sont par certains aspects vraiment différentes de ce qu'on a vu jusqu'à ici, mais qui sont dans la continuation de ce qu'on a vu jusqu'ici. On a, alors vous avez vu les descriptions partout, on va le faire très rapidement, mais en gros, ce casque de réalité mixte est assez fin, a l'air d'être peut-être un peu plus fin que le MetaQuest 3, qui est déjà, lui, assez fin, et il a différentes caractéristiques impressionnantes. Il a, par exemple, des lentilles qui vous permettent de voir les écrans à l'intérieur qui sont minuscules, qui font la taille d'un timbre-poste, mais qui ont tellement de pixels à l'intérieur qu'il y a plus de pixels sur chaque œil qu'une télé 4K, ce qui est, on va dire, le standard haut des casques de réalité virtuelle.
Ce n'est pas les lentilles, c'est les écrans micro-LED.
Des écrans micro-LED, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'appareil de lentilles entre toi, entre ton œil et l'écran, qui fait que même si le truc est minuscule, c'est grossi, c'est des loupes, quoi. Donc ça, c'est grossi pour que ça fasse la taille de tout ton champ de vision, ou presque. Ça, on n'a pas de détails sur exactement quel pourcentage, quel degré de vision il propose.
C'est ça qui va faire que ça va, l'expérience va être bluffante ou pas, en fait, parce que c'est vraiment une problématique. Mais quand je vois ce que ça donne sur le Quest 2, je me dis que c'est tout à fait possible, en fait.
Il y a peu de chances que ça soit vraiment restrictif, quoi. Les autres caractéristiques, il est complètement autonome, évidemment, mais il faut une batterie, un pack de batterie connecté par un câble à garder dans la poche. On peut aussi le connecter sur le secteur si on le souhaite. Le pack de batterie donne à peu près 2 heures d'autonomie. Je reviens un instant sur les aspects techniques. Il y a également un écran un petit peu au milieu de l'appareil, mais qu'on peut voir quand on regarde la personne qu'il porte, donc un écran sur le devant de l'appareil, donc en fait, il y en a deux, l'écran à l'intérieur pour ce que vous voyez vous quand vous le portez, et un écran à l'extérieur que les gens voient pour afficher vos yeux, c'est-à-dire, pour afficher la partie de votre visage qui est derrière le casque, de manière à ce que les gens qui vous voient avec le casque faire vos trucs, aient l'impression quand même de comprendre ce que vous faites et d'avoir votre regard, puisque c'est très important, et c'est moins isolant quand on peut voir le regard de quelqu'un. Et c'est des yeux qui sont recréés à partir d'un avatar virtuel, mais qui sont suffisamment réalistes pour qu'avec la profondeur du casque, on comprenne que c'est... On ait l'impression que ce sont vos vrais yeux. Le fait qu'on ne soit pas...
Et ça qui est intéressant, c'est que si tu clignes des yeux, ça cligne des yeux, et si tu balayes ton regard de gauche à droite, en fait, ça va balayer le regard de gauche à droite, en fait.
C'est-à-dire que...
Donc ça qui est intéressant.
C'est pas un masque, effectivement, tu fais bien de le préciser, c'est une représentation de vos yeux à cet instant. Donc c'est une recréation de vos yeux avec vos paupières qui clignent des yeux. Enfin, vous clignez des yeux, ça cligne des yeux, si vous regardez à droite, etc. Donc ça regarde exactement où vous regardez. Et ça fait partie d'un élément de design important dans la conception de l'appareil, qui est qu'on ne doit pas être isolé quand on est dans l'appareil, ni nous par rapport à l'extérieur, ni l'extérieur par rapport à nous. L'extérieur par rapport à nous, ça passe par cette histoire d'écran qui va afficher la partie de votre visage qui est cachée par le casque. Et pour nous qui utilisons le casque, ça affiche l'extérieur. Si on le souhaite, on peut régler le degré de vision qu'on va avoir de l'extérieur ou l'immersion dans l'interface de l'appareil. Et quand quelqu'un s'approche, par exemple, étant donné qu'il y a à peu près 40 000 caméras et capteurs sur le casque,
3D en permanence la pièce, etc. Donc, dès qu'il voit qu'il y a un mouvement, un objet qui se déplace et que ce n'est pas lié à ton mouvement de tête, en fait, il va t'afficher cet objet-là, un chien qui passe, une personne qui passe, etc. Quoi.
Donc, on n'est vraiment jamais isolé dans l'utilisation du casque, ce qui est un élément extrêmement important et très différent de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant avec ce type de casque. Il y a également des aspects techniques. Bon, il y a une puce M2, une puce R1 qui est spécialisée dans la gestion de ce genre d'appareil. Et le son est intégré au casque lui-même, à peu près à côté des oreilles. Ça a vraiment, comme on l'imaginait, un look de lunettes de ski, avec une sangle qui est assez aérée, qui tient bien derrière la tête. Il est peu encombrant par rapport aux appareils qu'on connaît jusqu'ici, et il est assez petit. Bon, après, il faudra l'avoir sur la tête. Il y a très peu de journalistes qui l'ont eu sur la tête et qui nous ont livré leurs impressions jusqu'ici. On en parlera dans un instant. Mais l'autre élément important, c'est évidemment les usages qu'ils ont voulu mettre en avant. Il y en a eu 3. Productivité, c'est-à-dire l'éternel bureau virtuel, bureau informatique virtuel, qui est disponible. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle fenêtre, n'importe où dans votre environnement. Et rappelons-le, votre environnement, ça peut être juste la pièce qui est autour de vous. Donc, c'est de la réalité augmentée, simulée, avec des fenêtres de système équivalent à iOS qui se baladent un petit peu partout. L'autre, c'est le entertainment, donc les films, le sport. On peut imaginer être carrément pouvoir être dans le stade, assis là où on veut dans le stade pour voir le match de basket, par exemple. Ils ont montré des trucs comme ça. Et le dernier, c'est, j'ai déjà oublié le dernier, il y a donc le travail, le contenu qu'on va pouvoir regarder et bon, des expériences différentes. Alors, des jeux, des choses comme ça, qui n'ont pas été hyper convaincantes, mais on va peut-être justement parler de notre impression sur cette présentation. Le casque lui-même sera disponible en 2024, début 2024, disent-ils. Ça aura le temps d'être retardé au prix de 3 500 $. Ça fera sans doute 4 000 €, on imagine. C'est clairement pas un casque pour tout le monde au départ, même s'ils n'ont pas dit, comme je le pensais, c'est un casque pour les développeurs, c'est une première version. Mais on imagine que quelques temps après, il y aura le Apple Vision, pas Pro, qui coûtera moins cher parce qu'il n'y aura pas l'écran qui monte vos yeux, peut-être. Et donc, tout le concept s'effondre. Ouais. Mais ça arrivera plus tard. Pour le moment, c'est la version, entre guillemets, Pro. Cédric, qu'as-tu pensé de ce Apple Vision Pro qui nous amène le spatial computing, une nouvelle forme d'informatique?
Alors, lors de la démonstration, j'avais trop en tête les Google Glass, les HoloLens et le wow effect que ça représentait sur scène. Et in fine, quand on mettait le casque, on se rendait compte que c'était pas la promesse de la démonstration était pas là. Là, techniquement, ce qu'il nous montre peut réellement exister avec l'objet, le hardware qu'ils nous ont montré. Et donc, du coup, j'ai un peu d'espoir sur le fait qu'effectivement, la démonstration ressemble beaucoup à ce qu'on va obtenir dans la vraie vie. Alors, je dis ressemble beaucoup parce que ça ne sera pas 100% de la démonstration. Parce qu'en fait, on voit des gens filmés de l'extérieur, intégrés dans un truc. Donc, il y a beaucoup d'images simulées, etc. Je précise un truc, c'est que tu dis que ce sera disponible début de l'année prochaine aux États-Unis seulement. C'est-à-dire que ça viendra ensuite en Europe, peut-être fin d'année, enfin un peu plus tard. Moi, il y a un truc qui, comme tu l'as dit pendant la conférence, ça s'appelle Vision Pro, donc destiné aux pros, développeurs, etc. C'est vraiment le produit de bêta, en fait. C'est le produit sur lequel on va créer les usages, on va créer les expériences. Mais la démonstration qu'ils font, en fait, elle est surtout orientée grand public et finalement peu professionnel. Alors, il y a un truc qui est cool quand tu as un Mac, c'est de prendre ton écran et de l'agrandir en immense et de continuer à taper sur ton Mac, utiliser ton trackpad ou passer avec tes mains, etc.
Ah, j'explique pour les gens qui n'ont pas vu la démonstration, c'est-à-dire que tu as le casque sur la tête, tu t'approches de ton Mac, tu ouvres le Mac si c'est un Mac portable et l'écran de ton Mac s'affiche tout à coup, tu peux le transporter dans l'univers virtuel et au lieu de le voir s'afficher sur ton Mac, bah, le même écran s'affiche en beaucoup plus grand devant toi, puisque tu as un Canva virtuel, il s'affiche beaucoup plus grand, et tu peux continuer à travailler sur ton Mac, c'est juste que l'écran ne s'affiche plus sur l'écran lui-même, mais devant toi en beaucoup plus grand. Donc c'est un c'est usage ça. Intéressant.
C'est ça. Et en fait, c'est les usages pro se limitent en grande partie à ça, en fait. C'est-à-dire que il y a la démonstration de la visioconférence, etc., qui sont plutôt pas mal avec l'idée de tu retournes le casque vers toi, tu scannes ton avatar, tu le mets sur la tête, et ensuite, quand tu es en réunion, tu vois les gens en taille réelle, avec son spatialisé, etc. Eux te voient à travers un avatar qui te représente. Alors, c'est pas parfait, d'ailleurs, sur la démo, on voit, il passe assez vite sur l'image, mais je l'ai re-regardé ce matin, pour préparer le rendez-vous tech, et je me suis dit, quand même, c'est pas parfait, en fait. Il y a cette
MKBHD
idée que...
MKBHD, qui l'a testé, dit c'est correct, effectivement. Là encore, ouais. Pour expliquer, ce sont des... sont des avatars, c'est-à-dire qu'on va prendre le casque quand on fait la mise en place de l'appareil, on va prendre le casque, le retourner et utiliser tous les capteurs qu'il a sur le devant pour scanner notre visage, et il va créer un avatar 3D de notre personne, et c'est ce que verront les gens avec qui on va communiquer par communication en ligne, Teams, Zoom, etc. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous voir, on n'a pas une webcam devant nous, ils ne vont pas nous voir avec le casque sur la tête ou voir juste nos yeux. Ils verront cette représentation informatique de nous. Et ça a l'air d'être correct, mais voilà.
C'est ça. C'est OK-ish.
OK-ish.
Mais c'est... Voilà, c'est... J'ai toujours peur des usages, en fait. Ce qu'ils ont montré était assez convaincant. Techniquement, c'est convaincant. La vraie question qui se pose, c'est cette idée de quand est-ce qu'on l'utilise, en fait. C'est-à-dire que autant Microsoft, avec les HoloLens, vous faisiez une démonstration de... En fait, ce truc-là, il est fait pour être porté à l'extérieur du bureau. Au bureau, ça marche, mais à l'extérieur, ça marche vachement bien. Un technicien en intervention qui a en surimpression le manuel de son truc d'intervention, etc. Moi, j'avais assisté à des démonstrations pro de HoloLens à l'époque, par exemple chez Bouygues Télécom, qui les techniciens utilisaient pour changer les cellules d'antenne, etc. Bref, pour de la télémédecine, des pompiers, des machins. Enfin, on voyait que c'était vraiment un truc fait pour les pros sur le terrain, etc. Et quand on parlait des pros, c'est pas des pros... le bureau d'études bien cossu, avec les petits canapés où on peut s'asseoir, etc. C'était les gens qui étaient sur le terrain, quoi, les mécaniciens, les machins et trucs. Là, on n'a pas ça. C'est-à-dire que la démonstration pro et l'appellation pro, pour moi, elle n'est pas tellement justifiée, en fait, avec ce qu'ils ont fait. On a surtout de l'entertainment. Ou alors, c'est comment les pros vont pouvoir nous vendre des trucs et exploiter ce truc-là. Parce que la démonstration avec Disney, où tu es dans un speeder sur Tatooine pour regarder The Mandalorian, bon, excuse-moi, mais côté pro, on n'y est pas, quoi, en fait. Donc, techniquement, c'est impressionnant. En plus, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont pris... Il y a dû avoir un sacré travail, quand même, parce qu'ils ont pris tout ce qui n'allait pas avec la VR aujourd'hui. Et ils ont essayé de corriger tous les problèmes. C'est pour ça qu'en fait, sur la face avant, il y a 8 caméras plus les lidars, qu'à l'intérieur, chaque œil dispose de 2 caméras infrarouges plus des lidars, etc. Il y a des capteurs sous l'appareil, des caméras sous l'appareil, parce qu'il y en a 8 en frontal, mais il y en a ensuite 4, enfin 2 de chaque côté, sous l'appareil pour capter les mains, en fait. La profondeur 3D, etc. En fait, le vrai
parce
truc
qu'on
intéressant,
l'a pas
c'est que...
On l'a pas dit, mais on contrôle la manette. Chose avec les yeux, voilà. Oui, tu as
avec les yeux et la main. C'est-à-dire qu'en fait, comme mes yeux sont scannés en permanence, si je regarde un objet, le focus se fait dessus. Et en fait, si vous avez déjà utilisé une souris sur iPadOS, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que quand la souris passe d'une icône à l'autre, en fait, elle est attirée vers l'icône. Mais en fait, là, c'est pareil avec les yeux. C'est-à-dire qu'on déplace ses yeux et hop, c'est attiré vers l'objet. Et comme il filme mes mains, je fais juste un petit geste comme ça, pouf, et ça valide, ça sélectionne si je garde appuyé, ou ça valide, ça clique en fait si je fais juste ça. Et en
si
fait, réellement,
fait
je n'ai même pas besoin de lever
pincement,
ma main.
Un petit pincement
voilà,
avec les doigts.
Je n'ai même pas besoin de lever ma main. Je la laisse par exemple posée sur le bureau, juste je regarde un objet et je pince. Je n'ai pas besoin de déplacer mes bras comme avec des manettes ou même avec la main sur le Quest 2 qui finissent par être fatigant musculairement. C'est-à-dire que si tu, on considère que c'est un objet pour travailler, tu ne fais pas 2 heures de boulot en tirant sur des cellules Excel, agrandir des tableaux, copier une photo pour la mettre dans un PowerPoint. Ça, c'est Minority Report. Mais assez vite, vous allez avoir une vraie fatigue musculaire. Et en fait, on ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire que vraiment, on regarde un truc, on appuie, on déplace avec les yeux, on lâche, etc. Et en fait,
où que soient nos mains, puisqu'il y a tellement de caméras, où que soient nos mains, on n'a pas besoin de mettre les mains à un endroit précis. On les a posées sur le bureau, posées sur le canapé, et c'est bon.
Nos genoux, peu importe en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont réfléchi à chaque problème que posent les casques VR, l'expérience VR aujourd'hui. Le fait qu'on soit isolé de l'extérieur et qu'on ne voit pas nos yeux, ils ont réglé ce problème-là. Le fait qu'on n'ait pas une perception de l'extérieur correct, eh bien, ils ont aussi réglé ça. En fait, ils ont réfléchi vraiment à toutes les problématiques et toutes les critiques qu'on fait au casque VR et ont essayé d'apporter une réponse. Alors, elle est bonne, elle n'est pas bonne, ça, on laissera juger. Mais je trouve qu'en attendant, ils ont fait un énorme travail sur ça. Et ça implique quoi? Ça implique beaucoup de technologies embarquées. Et quand ils nous disent, ouais, la batterie, en fait, on l'a mise à l'extérieur parce qu'on ne voulait pas mettre de poids dans le casque, je pense surtout qu'en fait, si tu veux garder un truc fin avec tout ce que tu as mis dedans, le M2, le R1, les 8 caméras sur la face avant, les 4 caméras en dessous, les lidars, les machins, les trucs, juste, tu n'as pas la place, en fait. Mmh. Ou alors, ça veut dire la mettre derrière la tête, mais bon, ce n'est pas génial pour le tissu, pour le confort global. Donc, les 4000 euros, parce que ça sera sans doute ça, même peut-être 4300 chez nous, les plus de 4000 euros que vont coûter le casque à la fin, technologiquement, c'est justifié. Est-ce que l'usage va faire que je suis prêt à mettre 4000 euros pour un truc qui technologiquement est justifié? Ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ouais, y a le wow effect quand on met le casque. Je suis sûr qu'on va tous aller en Apple Store, mettre le casque, il y aura des files d'attente pour tester le casque et on va trouver, il faudra prendre des rendez-vous sans doute, et on va trouver ça génial. C'est-à-dire qu'on va dire, waouh, l'expérience, elle est folle. Mais ensuite, la réalité va nous rattraper. Ok, si je l'achète, est-ce que vraiment je vais m'en servir tous les jours? Est-ce que vraiment j'ai un usage qui fait que ouais, je vais me dire, ok, il me le faut absolument. Et en fait, c'est ce pas-là. Apple, en fait, a un an pour construire avec les développeurs et les partenaires des expériences qui vont faire qu'au mois de janvier l'année prochaine, aux États-Unis, les gens vont faire la queue devant les Apple Store pour acheter un casque à 4000 balles. Et ils ont commencé à justifier le truc en disant, prenez une télé 4K plus un home, une télé 4K de grande taille, c'est-à-dire 85 pouces ou plus. Un home cinéma, comment ça s'appelle,
un ordinateur, un truc, ça vous coûte 8000 euros. Donc en fait, vous économisez de l'argent.
Exactement. Et en fait, là, ils ont voulu nous la jouer à l'envers. Mais dans les faits, est-ce que demain, pour des gens qui ont un iPad et qui se servent finalement de l'iPad pour consulter du mail, des photos, consommer du contenu, pourraient pas se dire, ok, je vire ma télé, je vire mon home cinéma, je vire mon iPad et les 3500, je les prends.
Ouais.
Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que alors, là, ça pourrait presque se justifier, mais même dans les faits,
C'est ça le problème.
Je pense qu'on en verra quelques-uns, mais voilà, moi, c'est l'usage, en fait, et j'attends les développeurs sur ça. Et c'est pour ça que on attend, on n'aura pas on ne mettra pas la main sur les appareils définitivement avant l'année prochaine. Il va y avoir une nouvelle conf, d'ailleurs, en janvier l'année prochaine, ou fin d'année l'année prochaine, pour expliquer les avancées qu'ils ont fait sur l'informatique spatialisée, en fait. Voilà.
Ouais, ils se sont laissé le temps, effectivement, de continuer à développer la chose. Les développeurs vont mettre les mains dessus. Je te rejoins quand même sur l'analyse, c'est celle que je faisais quand on couvrait l'événement hier. Technologiquement, il y a des solutions impressionnantes à de nombreux points de vue. Encore une fois, la vidéo de MKBHD qui sera dans la newsletter. La newsletter, c'est vraiment le compagnon de cette émission. La vidéo de MKBHD explique que le tracking des yeux est incroyable. C'est vraiment parfait et c'est bien au-dessus de ce qu'on a pu voir comme méthode de contrôle jusqu'ici. Et c'est un exemple, mais toutes les solutions techniques qui sont implémentées sont vraiment, vraiment réussies. Donc l'objet technologiquement réussit à, peut-être pas parfaire, mais en tout cas véritablement faire avancer le concept de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Là où j'étais très vite dubitatif, ou pas vraiment dubitatif, c'est pas le bon terme, mais je suis pas encore convaincu, c'est sur les usages, effectivement, parce qu'ils nous ont montré de la bureautique. Alors, est-ce qu'on a envie d'avoir un casque au lieu de nos deux moniteurs auxquels on est habitué. Peut-être, hein, si ça se trouve, oui, on voudra avoir des apps iPhone, type iPhone ou type iPad partout autour de nous, et ça sera beaucoup plus pratique que deux moniteurs. Mais il y a plein d'appareils qui nous ont proposé ça, ça n'a jamais été convaincant. Est-ce qu'on voudra regarder des films sur des écrans qui sont l'équivalent de 160 pouces chez nous avec, alors on a les mains libres, on peut regarder autour de nous et attraper le pop-corn, c'est bien meilleure expérience que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et oui, on aura de la 3D convaincante pour regarder Avatar 2 comme si on était au cinéma et peut-être encore mieux qu'au cinéma. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire avec un casque sur la tête? Je ne sais pas encore. Dans certains cas, peut-être, mais je ne suis pas complètement convaincu. Le fait de prendre des vidéos 3D de l'anniversaire de nos enfants avec ce casque bizarre sur la tête et nos enfants qui se disent « Mais vire ton casque, papa, j'en ai marre. » Ça fait un peu l'effet Google Glass. Mais bon, je ne suis pas convaincu non plus. En fait, tous ces usages qu'ils nous vendent, c'est des usages qu'on a déjà essayé de nous vendre avec ce type de technologie depuis 10 ans. Maintenant, deux choses à noter. Et donc, depuis 10 ans, ça ne prend pas. Donc, je n'ai pas vraiment de raison de penser
comme
que...
Comme l'expérience était moyenne, tu vois.
Alors, c'est ça.
Là, si l'expérience est extrêmement léchée et que tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable.
Il y a deux choses.
Alors, peut-être...
en fait, l'iPad. Par exemple, l'iPhone, il y avait déjà des casques de, des téléphones intelligents, mais l'iPhone l'a fait tellement mieux qu'il a transformé pas juste les téléphones mobiles, mais l'industrie de l'informatique dans son ensemble. Donc, je suis pas en train de dire c'est parce que ça existe depuis longtemps que ça peut pas être mieux fait et arriver à un basculement qui fait que tout à coup la technologie prend. Mais l'iPhone, je savais à quoi ça servait. Steve Jobs est monté sur scène, il a dit c'est un iPod, c'est un téléphone. Et c'est un navigateur, un Internet Communicator. Bon, ok, c'est facile à comprendre. Je veux un iPhone, je veux un téléphone, je veux un iPod et je veux un moyen d'accéder à Internet. Tout ça dans un appareil dans ma poche. Ok, je comprends, j'achète. Là, est-ce que je veux 1000 fenêtres autour de moi? J'en sais rien. Est-ce que je veux un cinéma dans mes yeux avec une batterie de 2 heures? Il pourrait y avoir des batteries plus grosses. On peut le brancher sur le secteur, etc. Est-ce que je veux me balader avec un casque qui me donne l'air d'un abruti sur la tête? J'en sais rien, mais c'est possible, peut-être que c'est tellement mieux fait qu'avant, ça fonctionne tellement mieux qu'avant que ça va nous convaincre, c'est possible. Et puis également, encore une fois, c'est la version 1. L'iPhone 1, il n'était pas glorieux, hein, techniquement, c'était en 2G, c'était un écran pas super beau, etc., etc. Donc, on a largement de quoi, il est tout à fait possible, il existe un monde dans lequel l'Apple Vision Pro, c'est les fondations du truc, et dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, le produit est développé, affiné, et finit d'amener cette technologie, ce concept d'informatique spatialisée dans toutes les maisons. C'est possible. Et puis, l'appareil va évoluer aussi. On sait bien que, techniquement, l'idée de ce genre d'appareil, c'est qu'à ce stade, c'est des lunettes de ski, mais à terme, ça pourrait être des lunettes, entre guillemets, normales. Donc, entre parenthèses, si on porte des vraies lunettes, on peut acheter, à prix fort, j'en suis sûr, de chez Carl Zeiss, des lentilles qui s'attachent magnétiquement à l'appareil et qui ont notre prescription. Donc, c'est pratique, on peut l'utiliser comme
pas
ça.
Forcément à prix fort, hein, parce qu'il y en a d'autres qui le font, où ils t'offrent les lentilles à ta vue. En fait, ça serait même assez logique, c'est-à-dire que sinon, ils se coupent la clientèle qui porte des lunettes.
Évidemment. Donc voilà, je pense que si ça marche, et il y a des chances que ça marche, vraiment ça peut transformer l'informatique, mais il y a aussi des chances que ça ne marche pas parce que ce genre de concept n'est juste pas utile pour les utilisateurs. Donc on verra dans les années à venir, là, pour le coup.
Et l'objet est beau. Hein.
Oui. L'objet est moins moche que les autres, on va dire.
Bah, quand je dis c'est beau, c'est... Ce qu'ils ont réussi à faire avec autant de capteurs, etc., c'est plutôt bien, quoi, en fait.
Mmh. Oui, non, c'est sûr. Il est pas moche, quoi.
C'est rigolo parce qu'en fait, ils reprennent vraiment le design de plein de choses chez eux, en fait. Mmh. La petite lanière orange que tu as sur le bracelet d'Apple Watch Ultra, le look, la Digital Crown que tu as sur les Apple Watch, mais aussi sur les AirPods Max. Les grilles d'aération qui sont à peu près les mêmes. Enfin, vraiment, il y a une espèce de fourre-tout de tout ce qu'ils ont fait, en fait. C'est assez rigolo.
Et puis, on a aussi une force par rapport aux autres appareils concurrents, c'est l'écosystème d'Apple. C'est-à-dire que sur cet appareil, on a énormément d'apps. Alors, par exemple, les jeux d'Apple Arcade qui seront disponibles, ils disaient une centaine, c'est des jeux 2D qui seront plats, quoi. Donc, pas fou, mais ils sont là. On a FaceTime, on n'aura pas FaceTime sur les autres appareils, etc., etc. Donc, il y a la force d'Apple intrinsèque qui fait que ça peut avoir...
Ce qui est assez sympa aussi, c'est quand tu reçois une notification pour un message, si tu lèves ta montre, en fait, ça passe automatiquement en transparence pour que tu puisses voir ta montre, en fait, et genre une notif sur ta montre, etc. Bon, dans les faits, tu as aussi la notif dans le casque. Donc, du coup, la démonstration tombait un peu à l'eau, je trouvais, mais bon, voilà.
SDK arrive ce mois-ci, donc on commencera à en voir beaucoup plus, très, très vite. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais on va avancer parce que je crois qu'on a à peu près tout dit. On va avancer pour parler des autres annonces de cette WWDC parce qu'il y en a eu. D'une part, MacBook Air 15 pouces pour 1 300 $, dont sans doute 1 500 € par chez nous. Le MacBook Air M2, le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie, passe à une baisse de prix. MacBook Air M1 également. On a le Mac Studio mis à jour au M2 et le Mac Pro Apple M2 Ultra. Alors un Mac Pro avec processeur Apple, avec 7 cartes Afterburner pour des milliers et des milliers d'euros. Avec des performances, on va juste dire un mot dessus, performance impressionnante. On est à des niveaux de traitement parallèle de flux vidéo et ce genre de choses pour les monteurs vidéo et les gens qui travaillent sur ces choses-là, qui sont incroyables. La puissance de ces processeurs n'est plus à démontrer. Ça n'intéresse pas forcément le commun des mortels, mais le MacBook Air 15 pouces, ça peut être cool, vraiment fin, sans ventilateur, avec un peu plus d'espace pour travailler.
Au niveau des prix, le MacBook Air M1, il n'a pas baissé de prix chez nous, il est toujours à 1199. Et le MacBook Air M2, 13 pouces, est à 1299. Il y a 100 € d'écart pour la même capacité de stockage, la même quantité de RAM, etc. Avec simplement, bon, c'est le 8-cœur 8 GPU du M2, c'est-à-dire le plus petit, mais pour 100 € de plus, autant prendre la puce M2 et le... Le positionnement prix en chez nous est un peu étrange, quoi.
Sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle upsell. Comment vendre un truc plus cher en mettant un truc un petit peu moins cher que celui que vous voudriez.
Voilà, c'est ça. Et le 15 pouces, du coup, lui, il démarre à 1599. Voilà.
iOS 17 avec 4 angles de communication bien marketés. Bah justement, la communication, le partage, l'intelligence dans les claviers et des nouvelles expériences. Alors, nouvelles expériences, c'est journal intime qui peut être extrêmement utile quand on veut suivre pour le bien-être mental. La personnalisation des contacts avec ce qu'on peut faire sur les écrans d'accueil, on met des photos, on sépare le sujet du fond, etc. Le voicemail live, ça veut dire qu'on peut voir par texte ce que notre correspondant est en train de nous laisser comme message, c'est retranscrit par texte et on peut choisir de décrocher à n'importe quel moment. Donc ça, c'est super pratique pour les gens qui ne veulent pas parler aux gens auxquels ils ne veulent pas parler. Le truc qui était un petit peu impressionnant quand même, c'est le partage d'informations et de données de contact par AirDrop, qu'ils appellent ça le name drop, et on peut name partager drop, d'autres choses. En gros, c'est le partage magique qu'on aurait dû avoir depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas fait avant. On approche le téléphone du téléphone de quelqu'un d'autre et ça envoie les données sur l'autre téléphone. Ça échange les informations de contact. Lâche ton 06, machin. Ou alors, un morceau de musique, un fichier, genre de choses. C'est tellement évident quand on le voit, mais évidemment, il y a la belle petite animation, machin. C'est le truc qui m'a le plus impressionné, moi, dans iOS 17.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. En fait, la problématique aujourd'hui de AirDrop, c'est que souvent, les gens le désactivent parce que sinon, tu reçois des photos de saucisses dans le tram et envoyées aléatoirement via AirDrop. Et du coup, les gens le désactivent. Et au moment où tu en as vraiment besoin pour récupérer une photo, un lien ou quoi que ce soit, les gens sont obligés de le réactiver. etc. C'est pas hyper pratique. Là, en gros, il y a cet aspect un peu sécurisé, c'est-à-dire que, bah, ok, tu veux que je te partage la photo du mariage, machin truc, je m'approche et là, tu l'as, tu vois. C'est que là, pour partager une photo de saucisse, il faut vraiment coller le téléphone à l'autre, quoi. Et là, bon, voilà. Et c'est une manière aussi de sécuriser AirDrop, je trouve, ce fonctionnement-là. Et ouais, c'est vraiment la bienvenue. Ce qui est cool aussi, c'est que par exemple, j'écoute de la musique, il y a quelqu'un d'autre à côté qui approche son téléphone et ça active le live share. Enfin, voilà quoi.
On peut partager, oui, la musique, les photos, les podcasts, ouais. Enfin, plein de choses. Donc ça va être pratique. Bon, pas complètement folle non plus cette mise à jour. Il y a quelques autres petites choses, les cartes hors ligne, le fait qu'il reconnaît les animaux, pas juste qu'il sait qu'il y a des chiens et des chats dans les photos. Non. Il y a l'identité dans votre chien Médor, bah, il sait que c'est Médor et il le reconnaît, ce chien spécifiquement. Donc, l'autocorrect apprend. Donc, quand on veut dire fucking, ça ne dit plus ducking à chaque fois, il finit par apprendre. Donc, ça, c'est cool. Etc. etc. iPadOS 17, des widgets un petit peu partout, comme dans iOS 16, donc avec un an de retard.
On prend les améliorations de l'iPhone et on les transfère sur l'iPad, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
Avec le fait de pouvoir interagir avec les widgets qui sont sur votre écran de fond, c'est-à-dire qu'on peut cocher des trucs, vraiment interagir avec le widget sans lancer une app. Et l'autre truc qui était vraiment cool, c'était les améliorations sur les documents PDF, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus facilement les éditer, les renvoyer, etc. Mais surtout, on peut inclure un document PDF dans une note de l'application Notes et la partager. Et le travail en temps réel sur un document partagé et alors, c'est pas nouveau, tous les documents partagés travaillent de cette manière et quand on voit ce que fait la personne dans le document, on le voit en direct, etc. Mais le fait de voir avec le stylet qu'on peut dessiner, qu'on voit en direct ou qu'on a partagé un document, qu'on appelle la personne en FaceTime et qu'elle est en train de travailler sur le document et on le fait en même temps, je dois avouer que moi, ça m'a fait un petit wow effect, quoi. Léger, mais quand même.
Clairement.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Sonoma, macOS, Sonoma. Est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes à noter dans macOS Sonoma ? C'était... Toutes ces updates sont relativement mineures. Hein. Il n'y a pas de grand chamboulement.
Changement versant amélioration de performance, etc. Il y a beaucoup de changements esthétiques et vu qu'on a rajouté les widgets partout, etc., ben en fait, le Mac les avait pas vraiment, ils étaient dans le Control Center. Ben maintenant, ça y est, on les a au Notification Center. Maintenant, on les a sur le bureau. Voilà, c'est enfin, en gros, la vraie grosse nouveauté visible, c'est ça. Pour les screensavers,
tu veux dire qu'on revient à Windows, c'est quoi, Vista ou je sais plus lequel c'était.
Le premier à avoir fait ça. Ouais, c'était pas incroyable. Il y a toujours, ils nous ont reparlé du jeu vidéo aussi, mais pff, la promesse du gaming sur Mac, moi, voilà.
Alors, sur ce point, moi, je suis extrêmement... À chaque fois qu'on parle de gaming sur Mac, j'explique en long, en large et en travers pourquoi ça n'arrivera pas. Excuse-moi, on t'entend pas très bien, tu disais ?
Je dis, moi, je pense que ça arrivera l'année prochaine. Là, ils sortent les kits de portage. Donc, ils facilitent le portage des jeux. Et en fait, ça ne va pas être pour tout de suite. On va en reparler l'année prochaine. Donc, cette année, n'achetez pas un Mac pour jouer, quoi, en fait, clairement.
Bah, mais c'est quand même notable. Pour les gens qui aiment jouer sur Mac, ils sont enfin compris la véritable problématique du fait de porter des jeux. Alors, on le sait, hein, dans le monde du jeu vidéo, on est essentiellement sur... console ou PC. Le Mac, depuis longtemps, n'est plus vraiment une cible pour les développeurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est développer un kit de portage de jeux sur Mac. On sait qu'au niveau logiciel et matériel, les Macs sont tout à fait capables de faire tourner des jeux puissants aujourd'hui. Il n'y a plus de problème là-dessus. Le problème, c'est que pour développer une version de votre jeu sur Mac, ça implique un investissement en temps de développement, en argent et en temps, tout simplement, qui est disproportionné par rapport à ce que vous pouvez espérer avoir. Là, s'ils ont effectivement, comme ils le promettent, un kit de portage qui permet, en quelques jours, de porter un jeu de la plateforme de votre choix, PC a priori, au Mac, et ben là, c'est pour la première fois un argument convaincant pour moi, et je suis extrêmement négatifs sur le jeu sur Mac depuis longtemps. Mais là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a enfin une vraie réponse concrète aux préoccupations des développeurs. D'ailleurs, ils ont sorti Hideo Kojima, Hideo Kojimac, comme le disait Kazo sur notre Discord. Excellent petit jeu de mots que j'ai apprécié. Qui montre...
Hideo, comme iPad, iPhone.
Non, Hideo, ouais, c'est ça. Qui a montré Death Stranding, qui est un jeu qui a quand même quoi, 5 ans aujourd'hui. Donc, mais bon, c'était sympathique. Ça, c'était pour macOS. Donc, un petit espoir pour le jeu sur Mac. WatchOS 10, avec un redesign complet de l'interface que j'ai eu du mal. Alors, je suis sûr que c'est complètement redesigné et intéressant et super beau. J'ai quand même eu un petit peu de mal à comprendre exactement comment ça allait changer. Il y a une pile d'applications intelligentes que tu peux atteindre en faisant rouler la molette. Et elle sait ouais, en fait, quelles applications... Ouais, explique-moi. C'est la
WatchFace qui marche pas hyper bien. Je l'ai utilisé pendant un petit moment. Mais qui, en gros, au moment où tu te réveilles le matin, t'affiche la météo du jour, ton prochain rendez-vous. Si tu as un médicament à prendre dans santé, il te le dit, etc. Enfin, voilà. Et tout est chronologique, finalement, et contextualisé. C'est-à-dire en fonction du lieu où tu es, de ce que tu fais, etc. Normalement, la
déjà,
promesse,
ça.
En tout cas. Ouais. Mais en fait, c'est une amélioration de ça. C'est-à-dire que là, en fait, on est sur... voilà, on a amélioré la Siri Watch Face, quoi. Bon, OK.
Ça avait l'air plus profond que ça dans leur description, mais ça ressemble effectivement à ça.
En fait, elle est partout. C'est-à-dire que quand tu es sur n'importe quelle Watch Face, quand tu vas scroller ta molette, bah, tu as la partie Siri qui apparaît, en fait. La partie Siri, on dit la partie Siri, mais ce n'est pas vraiment la partie Siri. C'est la partie contextualisée, intelligente qui va apparaître, en fait. C'est surtout ça. De ce que moi, j'ai compris, en tout cas, c'est que cette watch face, finalement, devenait la watch face standard. À partir du moment où je vais slider, peu importe la watch face sur laquelle je suis, eh ben, je vais avoir ça, en fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah, à voir, ils ont aussi refait différentes apps. Bon, c'est une refonte de l'interface. On verra ce qu'il en est quand on en reparlera.
Il y a plein de choses qui n'ont pas été annoncées aussi. Hein.
Oui, et bah, ils n'avaient pas le temps. Hein. Ça faisait 2 heures déjà à la conférence. Donc, on en reparlera évidemment quand on aura la sortie à l'automne. TVOS 17, enfin alors, TVOS, la nouvelle version, avec le truc notable, c'est FaceTime sur Apple TV. Un autre truc important, sur Mac, on va avoir enfin l'économiseur d'écran de l'Apple TV sur Mac. Et c'est le plus bel économiseur d'écran que vous ayez vu de votre vie. Et je suis bien content que tout le monde pourra en profiter sur Mac. Mais sur Apple TV, FaceTime. Et il y a plein de gens qui disent « Ouais, bah, on ne va jamais s'en servir, machin. » Je pense qu'avec mamie et les enfants, ça va être sur la télé tout le temps, quoi. Mamie de 2 mètres de haut.
C'est ça.
Et puis...
Sur iOS, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit.
Mm-hmm.
C'est que... On n'a pas parlé pendant la conf, mais c'est, bah forcément, c'est là. Mais en fait, c'est cette possibilité d'enregistrer ta voix ton modèle de voix, et quand tu envoies un SMS à quelqu'un, en fait, tu peux lui envoyer le modèle avec, et quand le message est lu, par exemple, quand Patrick m'envoie un SMS, enfin un iMessage, Siri le lit pas avec sa voix, mais le lit avec la voix de Patrick, en fait. Et ça y est, sauf qu'en fait, ils l'ont pas annoncé pendant la conférence, puisque je pense que de toute façon, ça avait fuité, donc ça valait pas le coup de l'annoncer, mais en fait, c'est bien présent, et il y a plein d'autres petites choses comme ça, comme les AirTags partagés, comme plein de trucs qui voilà, sont passés un peu vite ou voire n'ont pas été démontrés et qui pourtant sont présents dans l'OS en fait. Et comme tu disais, il y avait beaucoup trop de choses à annoncer pour pouvoir s'attarder sur tout en fait.
Un autre truc dont on n'a pas parlé pour les iPhones, c'est le mode portrait veille, c'est-à-dire qu'il y a un mode réveil matin ou qui affiche différentes informations en mode paysage.
Il est dans les deux en fait.
Il est dans le 2 ?
Il est dans les deux, en portrait et en paysage. Mais effectivement, oui. La grosse nouveauté, c'est quand même le mode paysage, ça c'est sûr.
Qui est un mode d'affichage dédié quand vous posez votre téléphone pour la nuit, en mode, justement, vous pouvez le mettre en mode paysage. C'est un affichage différent qui est d'assez belle facture, en fait.
Il y a un truc, moi, qui me fait mal sur iOS, c'est qu'en fait, il laisse tomber l'iPhone 10, en fait. Le premier iPhone n'aura pas droit à la mise à jour. Avec les iPhone 8 et évidemment précédents. Donc, il y a quand même toute une génération, en tout cas, ça démarre à partir du 10S, en fait. Donc, voilà.
comme à chaque génération, il voilà. laisse une génération.
Et pour la WatchOS, c'est à partir de la 4.
Ah, donc la 4, la mienne pourra l'utiliser. Très bien. Et on est donc, oui, 2018, c'est pour les iPhones, donc 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, à peu près 6 ans. Bon, c'est correct dans cette industrie. C'est même le meilleur de voilà. cette industrie, on va dire. Bon, il y a des choses supplémentaires, des trucs sur les AirPods qui peuvent avoir des bruits qui adaptent le volume dans la rue en fonction du type de son qu'il y a autour de vous, genre les bruits gênants comme les travaux, bah, il va vous les réduire. Par contre, si quelqu'un se met à parler à côté de vous, non seulement il va augmenter le volume de sa voix, mais il peut également baisser le volume de ce que vous êtes en train d'écouter. C'est assez pratique, j'avoue que moi, je dis souvent « Attends, attends, qu'est-ce que tu dis ?» Et puis je mets pause, et puis je fais répéter. Donc ça, c'est pratique. Et puis, avec AirPlay, il y a une amélioration sur CarPlay. Quand vous êtes dans la voiture, avec une voiture équipé de CarPlay, et ben tous les iPhones qui sont dans la voiture avec vous peuvent envoyer des morceaux de musique sur la playlist de la voiture. Ça, c'est le truc, encore une fois, complètement tout con. C'est quoi ?
Les playlists partagées tout court, d'ailleurs, dans Apple Music arrivent aussi. C'est-à-dire que ça sera plus tard dans l'année, c'est marqué sur le site. C'est qu'en fait, tu peux créer une playlist, par exemple, on se partage une playlist et on peut ajouter chacun des morceaux dedans. Aujourd'hui, ce n'était pas possible. Enfin, maintenant, c'est fait comme sur Spotify, finalement. Les playlists collaboratives.
Bienvenue en 2012, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, par contre, moi, je suis hyper... C'est-à-dire que c'est cool, la fonctionnalité musique, mais l'année dernière, la promesse d'iOS 16 qui était « ça va remplacer le compteur de votre voiture, machin, nanana », on a un an plus tard, on n'a aucun véhicule qui l'intègre et on n'a plus du tout de démo de ce truc qui était censé être le projet Titan ou je ne sais quoi. Et in fine, en fait, on n'en a pas du tout entendu parler cette année.
Voilà. J'imagine que peut-être les constructeurs de voitures ne sont pas hyper chauds, enthousiastes à l'idée de livrer toute leur interface à Apple, mais c'est ce qu'on disait l'année dernière. Mais
exactement.
Bon. Ouais. Donc
et,
voilà.
Et oui, et la possibilité évidemment de contrôler les casques sur Apple TV+, aussi, les différents AirPods, etc., directement, le partage audio. Sur tes sessions, en fait, ils gèrent beaucoup mieux TVOS, le partage audio. Donc, par exemple, s'il y a un bébé qui dort à côté, vous voulez mettre un casque pour pas faire de bruit, etc. En fait, on peut automatiquement activer d'ailleurs le speech detection. Donc, vous parlez entre vous et vous vous entendez, tout en ayant la réduction du bruit s'il y a du bruit. Peu importe, ou activer le son spatialisé casque par casque avec le tracking de la tête ou pas, etc. Franchement, ils ont vraiment amélioré le truc. Et la fonction ultime, Patrick, et ça, tu as oublié. La détection de la télécommande grâce à Find My, quand on cherche la télécommande de son Apple TV.
Moi, je suis, tu sais, très méticuleux, donc je perds rarement ce genre de choses. Donc ça me...
Il y a un enfant qui passe, qui l'attrape et qui part avec dans la chambre. Toute ressemblance avec une situation déjà vécue serait fortuite. Mais après, tu la cherches. En fait, c'est bizarre, je l'avais mise là quand même. Voilà.
Pas faux. Donc au final, au-delà de la grosse annonce du Vision Pro, une conférence qui était solide, des améliorations sympathiques, et on verra ce que ça donne avec les nouveaux appareils. C'est peut-être pour moi enfin le moment de changer l'année prochaine, donc je suivrai ça avec intérêt. L'année prochaine, je veux dire à la rentrée, donc je suivrai ça avec grand intérêt. Et du coup, c'est le moment de vous dire que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Est-ce que vous saviez que sur votre appareil mobile, qu'il soit iPhone ou iPad ou même ordinateur mobile ou à votre bureau, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech ? Le saviez-vous, messieurs, dames ? Je vous réveille un petit peu là parce qu'on s'est endormi avec toutes ces histoires d'Apple. Le saviez-vous ? Je vous le demande. Eh bien, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission et surtout, avant tout, pour vous faire plaisir. Et oui, car soutenir un créateur que vous appréciez, c'est faire plaisir au créateur que vous appréciez, évidemment, mais également vous faire plaisir à vous-même. Vous octroyez la fierté de vous dire « ce type-là, je le soutiens ». Et j'en suis fier. J'espère que vous en êtes fier. Si vous n'en êtes pas fier, bon, il n'y a pas grand intérêt à le faire. Mais si vous appréciez ce qu'on fait, vous pourriez devenir une personne qui soutient le rendez-vous tech, qui activement fait la démarche de se dire « j'aime bien ce travail », eh bien, je vais mettre la main à la pâte. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes qui le fait déjà.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cédric, quelques petites news
oui.
qui restent dans cette émission. D'abord, 6 influenceurs ont été obligés d'afficher sur leur compte Instagram les réprimandes et la nature des amendes qui leur ont été infligées par la DGCCRF. Ça y est, on rentre dans le rang, c'est terminé. Alors, il y a plusieurs influenceurs. En gros, en général, ce qu'on leur reproche, c'est soit d'avoir mis en avant des produits qui n'étaient pas hyper cachers, soit de n'avoir pas mentionné le fait qu'ils étaient rémunérés pour parler de certains produits. Bon, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Voilà.
Voilà. Non, mais c'est bien, parce que c'était vraiment, on était à la limite de l'arnaque. Non, mais c'était vraiment de l'arnaque.
Ah bah il y en avait, oui, c'était carrément ça.
Oui, mais en fait, c'est très bien que les autorités s'en soient mêlées, en fait. Hein. Vraiment, vraiment.
Je pense que c'était des règles qui étaient claires pour tout le monde et il fallait taper un petit peu sur les doigts pour que tout le monde rentre dans le rang. Alors, il y a des gens qui se plaignent, qui disent ceci, cela. Non, j'ai pas vraiment dit ci, j'ai pas vraiment dit ça. Peut-être, ok. Mais en tout cas, maintenant, déjà à la base, nul n'est censé ignorer la loi, ok. Maintenant, sur ce point précis, je pense que dans ce milieu-là, il sera difficile de l'ignorer encore. Et c'était le but. Motorola lance 2 nouveaux téléphones Razer. Vous connaissez les Razer, c'est les pliables, là, les téléphones à clapet. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le Razer Plus, parce que quand il est replié, c'est un écran pliable. Hein. Sur l'intérieur, c'est un écran pliable. Et quand il est plié, il est tout petit, il fait la taille de... Enfin, je ne sais pas, plus petit, c'est un petit carré, quoi. Eh bien, sur l'écran externe, sur l'extérieur, il y a un écran qui fait presque toute la taille de l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il est véritablement utilisable en version pliée pour plus que juste quelques notifications. Il coûte 1 000 000 €. Mais je trouve que c'est un usage qui est plutôt convaincant, quoi. Ce nouveau Razer Plus. Alors, à l'intérieur, il y a toujours la pliure, machin. Et quand il est déplié, il fait la taille d'un téléphone normal. Mais il tient dans la poche, machin. Moi, je les trouve bien, ces petits appareils.
Oui, cette proposition-là est presque plus intéressante que les Fold ou le Pixel Fold, etc. En fait, c'est ces appareils qu'on nous promet mi-smartphone, mi-tablette, en fait. Et je trouve que la proposition de rendre plutôt le smartphone comme on l'a et qui répond à tous nos usages, hein, le rendre plus compact en le pliant, bah, je trouve ça plus intéressant comme proposition que celle de regardez, il est énorme et il rentre à peine dans la poche parce qu'on a mis un écran immense à l'intérieur et quand il est plié, il fait l'épaisseur d'un dictionnaire. Bon, je sais pas, moi je suis pas fan en fait. Et pareil pour l'usage en fait, se dire je passe d'un smartphone grand écran à une mini tablette, est-ce que vraiment ça change mon usage? J'ai un gros doute.
Surtout que là, en fait, la grosse différence, la grosse nouveauté avec cette version du téléphone pliable, donc téléphone taille normale qui devient plus petit, c'est que l'écran, donc, quand il est plié, est vraiment utilisable. Genre, on peut envoyer des messages, on peut... Je ne sais pas si c'était ultra nécessaire, mais effectivement, le fait... C'est plus juste pour le ranger, on peut aussi faire petit truc rapide sans le déplier. Bon.
Oui, en fait, on a un mini smartphone à l'extérieur.
Un mini smartphone à l'extérieur et smartphone normal quand il est ouvert, bah,
à l'intérieur.
Oui. Mini à l'extérieur.
Enfin, normal, 6,9 pouces, c'est Voilà, mais quand on voit que c'est 6,9 pouces, l'écran intérieur, c'est un iPhone 14 Pro Max, quoi. Donc, c'est pas un petit. Hein. Et quand il est plié, effectivement, on peut afficher son GPS, sa notification de message. On peut même répondre à un message plié.
Ouais,
donc,
on peut consulter un site web, on peut consulter la
on
carte.
On peut l'utiliser plié.
Ouais. Ça. Nvidia. Alors, tous les GAFAM, en fait, on va reparler un petit peu d'IA, hein, mais tous les GAFAM ont vu une croissance impressionnante à la bourse parce que bah, tout le monde croit en l'IA et dans le potentiel de l'IA. Il y a une société tech qui a particulièrement bénéficié de cette croissance, c'est Nvidia, qui a atteint le trillion, donc les 1000 milliards de dollars de valeur boursière. Ils sont un petit peu redescendus depuis, je crois. Évidemment, Nvidia, ils sont le moteur, en grande partie, avec leurs différentes puces spécialisées dans l'IA, le moteur d'une bonne part de cette industrie. Vraiment, Nvidia et AMD ont géré leur croissance ces dernières années de manière impressionnante. AMD dans des domaines plus traditionnels, mais Nvidia dans le domaine de l'IA et pas que. Et on peut vraiment applaudir les dirigeants parce qu'ils étaient sur tous les bons coups et de manière impressionnante. Donc voilà, vous saurez que Nvidia, ils jouent vraiment dans la... Enfin, ils jouent dans la cour des grands depuis très longtemps. Maintenant, ils jouent dans la cour des très, très grands, Nvidia.
Exactement. Et c'est quand même impressionnant parce qu'ils n'ont pas rencontré que des succès. Mais faut voir quand même que c'est aujourd'hui la puce de la Switch, c'est la puce, enfin ça a été la puce des Tesla pendant un moment, c'est la puce de pas mal de voitures, c'est effectivement le cerveau de certains modèles d'IA générative, enfin ils sont devenus incontournables et c'est un savoir-faire en plus qui est tellement spécifique. C'est difficile de les concurrencer là-dessus en fait aujourd'hui. Enfin, il faudrait un investissement massif et ça arrivera hein, sans doute. Mais autant sur la partie carte graphique qu'on connaît d'NVIDIA, c'est facile d'aller les chercher là. Même Intel maintenant s'est lancé avec ses cartes Intel Arc, même si ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est facile d'aller les chercher sur ça, sur le marché grand public. Mais sur le B2B, avec ses puces spécifiques, ils ont pris une énorme avance en fait. Donc ça a été hyper stratégique. En fait, ça me fait penser à Satya Nadella quand il a fait le virage chez Microsoft vers le service, vers le cloud, etc. En fait, c'est une vraie vision différente de ce qu'attend finalement le marché ou ce que nous, pauvres observateurs, on pourrait attendre d'un Nvidia, en fait. De faire des cartes graphiques, de faire des périphériques de jeux.
Non, ils ont une vision à 5 ans ou 10 ans à laquelle on n'aurait pas pensé, quoi.
Ils sont devenus un acteur incontournable de l'intelligence artificielle. Et c'est tant mieux, en fait. Voilà.
Justement, en parlant d'intelligence artificielle, on a les premiers retours sur l'expérience IA générative de Google, de la recherche Google. Et Jay Peters, le journaliste de The Verge qui l'a testé, n'est pas hyper enthousiasmé. En gros, il dit c'est long, c'est lent, ça donne des infos qui ne sont pas forcément hyper à propos par rapport à notre recherche. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Elle n'est pas disponible pour le grand public encore. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on est un petit peu loin de la promesse qui était séduisante qu'on avait vue à leur conférence. Mais elle existe à améliorer encore. Et puis, à propos d'IA, il y a deux choses dont je voudrais vous parler, deux séries de choses. Des usages classiques qu'on commence à voir, des usages intéressants de choses classiques. Et puis, des trucs un petit peu plus rigolos ou un petit peu plus différents, voire inquiétants. La première chose, c'est que la fonction d'IA générative de Photoshop est arrivée, on en parlait la semaine dernière, et il y a eu plein d'usages dont on a déjà parlé. On avait évoqué le fait d'étendre les albums de musique célèbre. Genre, on prend un album de... une image, une illustration d'album de musique, hein. Et puis on la met au centre et on dit à Photoshop « remplis ce qu'il y avait autour » et ça donne des résultats vraiment impressionnants. Je vous l'avais mis dans la newsletter d'ailleurs encore, hein, comme je vous le disais. Mais il y a un truc qui m'a vraiment encore plus impressionné, c'est, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est quelqu'un qui prend une vieille photo de famille et qui, à partir de cette vieille photo de famille, retravaille tout. C'est-à-dire que c'est même pas une vieille photo de famille, c'est une vieille photo de vacances, en fait. C'est lui en train de faire le signe de paix derrière un, avec un lac dans le fond. Et puis il étend, il dit « Alors là, vire-moi les gens qu'il y a dans le fond. » Et puis en fait, je rajoute encore, je double la taille vers la droite, mets-moi un petit château fort ancien. Puis ensuite, je rajoute du ciel, ok, mets-moi des nuages ici et là. C'est enfin, vraiment, on sait ce qu'est l'IA générative, on commence à le connaître maintenant depuis un an, mais à chaque fois…
Mais l'usage comme ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai assistant graphiste que tu as dans Photoshop. Moi, je le vois parce que ici, y a Laurent Deguin qui joue beaucoup avec et il a installé la bêta, etc. Donc, ça fait une semaine qu'il joue avec et qu'il s'éclate. Et en fait, c'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire que on a une photo de base et on peut absolument tout faire. En fait, rajouter une voiture dans le fond, éliminer les gens. Il a fait un test lui avec une photo de vacances qu'il avait prise où il y avait des gens dans la rue, etc. Il y avait un marché et tout ça. En fait, il a vidé la rue. Il n'y a plus personne. Mmh. Et la façon dont il a régénéré la rue avec Firefly, etc. En fait,
l'outil de Firefox, de Photoshop, quoi.
C'est ça. Eh bien, en fait, on a l'impression que c'est vraiment la rue, mais simplement, il a juste enlevé les gens. Et en plus, comme c'est des calques, tu coches, tu décoches et tu vois en fait ce qui a été généré par rapport à l'image d'origine. C'est extrêmement impressionnant. Et vous pouvez le faire sur n'importe quelle image. Par exemple, une photo, il y a plein de gens sur un lieu de vacances, vous sélectionnez et vous tapez dans le prompt « Enlève-moi les gens sur cette partie-là » et hop, il les enlève.
Et quand tu dis sélectionner, c'est-à-dire qu'on utilise l'outil pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne. On utilise l'outil lasso, de sélection lasso, on fait une grosse patate, on sélectionne une partie de l'image, et puis ensuite on tape ce qu'on veut qu'ils mettent dans l'endroit en question. Donc, si on veut enlever des gens, on sélectionne et puis on clique sans avoir besoin de rien taper. Mais si on veut ajouter un phare quelque part dans l'image, on sélectionne le truc et on dit bah « là, il y a un phare rouge et blanc ». quoi. Et puis, il met le phare. Si on veut un lac, on sélectionne, on dit là un lac qui a qui ressemble à ça, etc. etc. Vraiment incroyable. Il y a d'autres choses intéressantes qui se font dans l'IA. On commence à voir des effets spéciaux en vidéo qui sont un petit peu convaincants, qui ne sont pas vraiment de la qualité de ce qu'on peut voir avec des logiciels d'effets spéciaux et des vrais graphistes qui vont vous faire des vrais spéciaux, qui vont vous faire des vrais effets spéciaux. Mais il y a un mois, on en parlait, c'était des trucs ridicules. Aujourd'hui, il y a deux ou trois startups qui commencent à avoir des résultats en vidéo qui ressemblent à quelque chose. Et il y a même un film qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ? The Frost. Alors, qui est un film, comment dire, c'est hyper stylisé, ça fait genre, ça fait image animée de Midjourney. On voit que c'est de l'IA. Mais c'est un film de 12 minutes, oui, avec des effets spéciaux. Les visages, c'est n'importe quoi, parce que c'est animé animé à partir de trucs faits par Midjourney. Mais les effets spéciaux, disons que si quelqu'un, il y a un an, quelqu'un avait sorti un court-métrage comme ça, j'aurais dit « Ah, c'est une intention artistique intéressante d'auteur. Ça fonctionne, ce truc. C'est des images qui ne bougent pas beaucoup, qui sont un tout petit peu animées. » Enfin, ça progresse très vite, quoi.
Exactement.
Les trucs rigolos, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu as vu cet appareil photo, alors, que je n'aime pas appeler appareil photo, mais c'est un appareil qui ressemble à un appareil photo parce qu'on le tient comme un appareil photo, mais en fait, c'est juste un moyen d'avoir la localisation et il va aller sur Internet et il va simplement prendre les informations sur le lieu où on est par rapport à la localisation et puis quand on appuie sur le bouton, ça génère une image à partir des informations qu'il a eues avec lesquelles il a généré un prompt. C'est un projet artistique, en fait. Ce n'est pas tellement un véritable appareil photo. Mais c'est rigolo et les résultats ne sont pas mauvais, quoi. Je suis sûr qu'ils ont donné que des exemples qui fonctionnent.
Mais en fait, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, il va prendre toutes les infos contextuelles, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes, la météo, etc. Et il va générer, en fait, par IA, un truc qui pourrait ressembler à l'endroit où vous êtes, en fait. C'est original, évidemment. Il y a peu de chances que ce soit exactement la même chose, mais avec les coordonnées GPS, en allant chercher des images sur Street View, Google Maps, etc., il peut arriver à faire un truc qui s'en approche, quoi.
C'est la photo sans véritablement prendre d'image du tout.
La photo générée par IA de la vraie vie, sans vous, pas... Bon, voilà.
Bon, en réalité, il a les sources, bien sûr, puisque le moteur a été entraîné avec des photos en partie qui venaient de là, certainement, parce qu'il y a des millions et des millions de photos, mais c'est drôle quand même. Encore une fois, les modèles de langage et ChatGPT ont commencé à remplacer des gens. Il y a une enquête intéressante du Washington Post qui montre deux exemples de personnes qui ont perdu leur travail, qui était un travail d'écriture, de marketing, qui n'était pas le truc le plus créatif qui soit, hein, bien sûr. Mais les sociétés en question ont préféré payer moins cher pour moins de qualité, c'est quand même moins bon, mais c'est plus rentable pour eux. Et donc, il y a quelques personnes qui ont perdu leur travail, qui ont parlé au Washington Post. Donc, bon, pas plus de commentaires à faire là-dessus, mais ça commence pour de vrai, quoi. On verra si on arrivera à 80%, comme le disait Jérôme Kainborg, 80% de perte de travail. Et enfin, un projet hyper intéressant de Google qui s'appelle Style Drop. Est-ce que tu as vu Style Drop?
Oui, c'est le truc qui... Si. En fait, tu envoies une image et il apprend vraiment le style de l'image et il est capable de te générer, de générer des trucs dans le même style, c'est ça? Ouais.
Alors, tu lui envoies une image et il peut reproduire... C'est encore un projet de recherche, on n'a pas accès au truc directement, mais... les résultats sont extrêmement convaincants. Il reproduit dans ce style-là à peu près n'importe quelle demande. C'est-à-dire que tu lui envoies une image. Il y a différents exemples qu'il donne. Mais par exemple, une petite figurine en bois d'un viking pris avec un fond flou de forêt. Donc, on a juste posé la figurine et on a la forêt dans le fond. C'est l'image de référence et on lui décrit l'image et ensuite, on lui demande de faire autre chose avec ce style. Par exemple, au lieu d'une tête de viking, une voiture de course, une vache ou ce genre de truc. Il reproduit. Tu as l'impression que c'est la même image avec une autre figurine qui a été placée là, mais une figurine gravée, une gravure de la figurine. C'est hyper impressionnant.
Ouais, clairement, c'est pas mal.
Il y a d'autres exemples. Une petite peinture à l'eau d'un enfant qui a fait des petites fleurs comme ça sur une page blanche. Tu lui dis... Tu lui montres cette image de référence et puis ensuite, tu lui dis, fais-moi la lettre A, puis la lettre B, puis la lettre C. Ça te fait la lettre A toute seule, sans fleurs, sans rien, juste la lettre A, mais peinte à l'eau avec des trucs approximatifs. Ils montrent aussi des icônes très, très, très stylisées, monochromatiques. Tu lui envoies juste l'image et tu lui demandes d'autres icônes. Mais avec ce style-là, là, il y a des icônes, c'est des S, des trucs symboliques. Tu lui demandes un homme avec une barbe, il va te faire un truc à plat, monochrome, c'est une icône d'un homme avec une barbe.
Ouais.
Un loup qui ulule, non, c'est pas un loup qui hurle à la lune, il y a un petit profil monochrome. C'est hyper... Les applications de ce genre de trucs sont folles. Et j'ai été très impressionné.
Ah mais clairement, c'est assez fou ce qu'on fait aujourd'hui.
Imagine dans 6 mois. Mon bon monsieur, je le mettrai dans la newsletter aussi.
Non mais imagine ce qu'on va faire dans 6 mois.
Imagine ce qu'on va faire dans 2 jours.
Oui, c'est ça.
Sur notepatrick.com, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou dans les notes de l'émission. Mais ça vaut le coup. Enfin, les liens, la newsletter, c'est le compagnon des émissions, j'aime l'appeler comme ça. Et puis, on conclut avec le journal de Twitter. J'aime généralement laisser le meilleur pour la fin. Là, je laisse le pire pour la fin. Il y a deux personnes qui dirigeaient le département Trust and Safety de Twitter qui ont démissionné, genre, en 3 jours. Elon Musk, il était en voyage en Chine. Étrangement, il n'a pas tweeté du tout. Il était en Chine? Pas du tout. Alors qu'il tweet en moyenne 10 fois par jour ou 150 fois par jour. En Chine, il s'est tenu bien quoi. Bon, une bonne chose quand même, suite aux images deepfake d'explosion au Pentagone, eh ben, Twitter a ajouté la fonction Community Notes, vous savez, qui permet d'ajouter des commentaires aux tweets, eh ben, ils l'ont ajouté aux photos. Et ces commentaires sont traqués sur les photos, même si elles reviennent, c'est-à-dire que les photos sont identifiées, et si on la reposte ensuite, ouais. Eh ben, les commentaires, des enfin, les notes sont disponibles sur cette photo tout de même. Donc ça, c'est quand même une bonne chose.
Ça évite de faire sauter la note quand on réupload, en fait. On supprime son tweet et on le refait. Et bien, en fait, la note, y est quand même, en fait.
Ou alors, même un mois plus tard, la photo fake ressort. Et ben, ça la retrouve quand même si c'est quelqu'un d'autre qui l'upload. Est-ce que j'ai envie de parler de What is a Woman? Non, même pas. Même pas. Enfin, ouais. Il en a... Non. Et quoi d'autre? Non, mais parce que c'est fatigant. Elon Musk est accusé d'insider trading. Vous vous souvenez, à un moment, il a mis l'icône de la crypto-monnaie Doge, du Dogecoin, à la place du logo de Twitter. Et ben, juste après, il a vendu pour 124 millions de Dogecoin. 124 millions de dollars de Dogecoin. Donc, manipulation de marché, tout ça. C'est un peu Cradock. Et voilà, ouais, pour... On va s'arrêter là. Et voilà,
la seule loi qui s'applique à lui, c'est celle de Twitter.
La seule loi qui s'applique à lui, oui, on est d'accord. Oui. Et voilà pour notre émission. On a passé un bien bon moment en ta compagnie, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Partagé.
Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es plus dans cette émission qui se termine?
Eh bien, justement, sur le réseau d'Elon Musk, sur Twitter.
On peut pas ça.
Cédric de Lucas. Cédric de, le chiffre 2, Lucas. Voilà, comme ça, je partage quand je fais des lives et tout ça. Enfin, voilà.
Très bien. Plus simple. Cédric de Lucas. Merci beaucoup, Cédric. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter également, mais aussi sur Mastodon et sur Blue Sky. J'ai eu mon invitation. Ça ressemble énormément à toi.
Ah, la chance.
Ça ressemble beaucoup à Blue Sky, mais à Twitter. Mais je suis notre Patrick là-dessus aussi, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Le Discord, où on s'amuse bien, où il y a des gens sympathiques, vous pouvez également nous retrouver là-bas. Le lien est dans les notes de l'émission. Le Twitch, le YouTube pour le replay, si vous avez raté le Twitch, c'est notre Patrick Podcast. Enfin, là encore, lien dans les notes de l'émission. Et le plus important, patreon.com/rdvtech pour soutenir cette émission. Vous pouvez décider de la somme que vous donnez et elle est automatiquement prélevée sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre, même si vous êtes abonné à plusieurs créateurs de contenu. Donc, vous pouvez commencer votre vie de soutien de la création de contenu indépendant dès aujourd'hui en allant, par exemple, sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.